France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Et les amours de Jacques. Amour, boisson, voyage, cela fait de belles histoires, interrompues, inachevées, s'emboîtant les unes dans les autres. Bref, le Jacques en question est évidemment Jacques le fataliste. Je n'aime pas les romans, dit Diderot dans Jacques le fataliste. À moins que ce ne soit ceux de Richardson. Il a écrit un éloge de Richardson. Lui, Diderot, il fait l'histoire. Elle intéresse ou elle n'intéresse pas, c'est le moindre de ses soucis. Son projet est d'être vrai et il l'a rempli. Bon, où en sont donc les amours de Jacques? Voici le 9e épisode, diffusé pour la première fois sur RTF Promotion le 21 novembre 1963.
Jacques le fataliste et son maître de Diderot, découpé par Roger Pilaudin et réalisé par Henri Soubéran.
Mon maître, où donc est mon maître ?
Ah, et l'acteur qui tenait ce rôle ne le tiendra plus, Jacques.
Et pour quelle raison ?
Il ne fallait pas l'interrompre hier, il s'est fâché.
Mais si je l'ai fait, c'était à cause de l'horaire.
Oui, mais ce n'est pas tout. Tu allais anticipant sur lui, lui ôtant le plaisir qu'il s'était promis de ta surprise, en sorte qu'ayant, par une ostentation de sagacité très déplacée, deviné ce qu'il avait à te dire, il ne lui restait plus qu'à se taire. Et il se tait.
C'est trop de susceptibilité.
Oui, encore un acteur qui se prend pour son personnage. Je lui ferai porter un exemplaire de mon paradoxe.
Mais je ne connaîtrai donc pas la fin du récit des amours de mon maître et de mademoiselle Agathe?
Je proteste, moi aussi, l'auteur. Je veux connaître la fin de ce récit et, si possible, la suite des amours de Jacques.
Bien. Voyons, Gousse est-il encore dans le studio?
Oui, je suis là.
Bon, eh bien, vous n'êtes plus Gousse.
Ah bon? Ah, je ne suis plus. Et alors, qui suis-je?
Bien, vous êtes le nouveau maître de Jacques.
Oh.
Reprenez le récit où nous en étions restés, en haut de la page 4.
En haut de la page 4.
D'accord, mais continuez votre histoire.
Ce drôle-là fait de moi tout ce qu'il veut. Bon, alors quelques jours après cet entretien avec le chevalier, il reparut chez moi.
Eh bien, l'ami, une autre fois, croirez-vous à mes almanachs? Je vous l'avais bien dit. Nous sommes les plus forts. Et voici une lettre de la petite. Oui, oui, une lettre. Une lettre d'elle.
Cette lettre était fort douce. Des reproches, des plaintes, etc. Et me voilà réinstallé dans la maison.
Et doucement, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il y a, auditeur? Ah, je crois vous comprendre. Vous voudriez voir cette lettre. Et celle que Madame de la Pommeraye dicta aux deux dévotes, je suis sûr que vous l'avez regrettée. Quoiqu'elle fût autrement difficile à faire que celle d'Agathe, et que je ne présume pas infiniment de mon talent, je crois que je m'en serais tiré. Mais elle n'aurait pas été originale. Ça aurait été comme ces sublimes harangues de Tite-Live dans son Histoire de Rome, ou du cardinal Bentivoglio dans ses Guerres de Flandre. On les lit avec plaisir, mais elles détruisent l'illusion. Un historien qui suppose à ses personnages des discours qu'ils n'ont pas tenus peut aussi leur supposer des actions qu'ils n'ont pas faites. Je vous supplie donc de vouloir bien vous passer de ces deux lettres et de continuer d'écouter.
On me demanda raison de mon éclipse. Je dis ce que je voulus. On se contenta de ce que je dis et tout reprit son train accoutumé.
Et c'est-à-dire que vous continuâtes vos dépenses et que vos affaires amoureuses n'en avançaient pas davantage.
Et le chevalier m'en demandait des nouvelles et avait l'air de s'en impatienter.
Et il s'en impatientait peut-être réellement.
Et pourquoi cela?
Pourquoi? Parce qu'il...
Mais achève donc.
Je m'en garderai bien. Il faut laisser au compteur.
Mes leçons te profitent. Je m'en réjouis. Un jour, le chevalier me proposa une promenade en tête à tête. Nous allâmes passer la journée à la campagne. Nous partîmes de bonne heure, nous dînâmes à l'auberge, nous y soupâmes. Le vin était excellent. Nous en bûmes beaucoup, causant de gouvernement, de religion et de galanterie. Jamais le chevalier ne m'avait marqué tant de confiance, tant d'amitié. Il m'avait raconté toutes les aventures de sa vie avec la plus incroyable franchise, ne me scellant ni le bien ni le mal. Il buvait, il m'embrassait, il pleurait de tendresse. Je buvais, je l'embrassais, je pleurais à mon tour.
Hélas, dans toute ma conduite passée, il n'y a qu'une action que je me reprochasse. J'emporterai le remords jusqu'au tombeau.
Chevalier, confessez-vous-en à votre ami. Cela vous soulagera.
Eh bien,
de quoi s'agit-il? De quelques peccadilles dont votre délicatesse vous exagère la valeur?
Non, c'est une noirceur. Une noirceur impardonnable. Le croiriez-vous? Moi, le chevalier de Saint-Ouen, a une fois trompé. Oui, tromper son ami.
Oh, et comment cela s'est-il fait?
Hélas, nous fréquentions l'un et l'autre dans la même maison, comme vous et moi. Il y avait une jeune fille, comme Mademoiselle Agathe. Il en était amoureux, et moi j'en étais aimé. Il se ruinait en dépenses pour elle, et c'est moi qui jouissais de ses faveurs. Je n'ai jamais eu le courage de lui en faire l'aveu, mais si nous nous retrouvons ensemble, je lui dirai tout. Cet effroyable secret que je porte au fond de mon cœur l'accable. C'est un fardeau dont il faut absolument que je me délivre.
Chevalier, vous ferez bien.
Vous me le conseillez?
Assurément, je vous le conseille.
Et comment croyez-vous que mon ami prenne la chose?
S'il est votre ami, s'il est juste, il trouvera votre excuse en lui-même. Il sera touché de votre franchise et de votre repentir. Il jettera ses bras autour de votre cou. Oui, il fera ce que je ferai à sa place.
Vous le croyez?
Je le crois.
Et c'est ainsi que vous en useriez?
Je n'en doute pas.
Mon ami, embrassez-moi donc.
Quoi, chevalier? C'est vous? C'est moi? C'est cette coquine d'Agathe?
Oui, mon ami, je vous rends votre parole. Vous êtes le maître d'en agir avec moi comme il vous plaira. Si vous pensez, comme moi, que mon offense soit sans excuse, ne m'excusez point. Levez-vous, quittez-moi, ne me renvoyez jamais qu'avec mépris, et abandonnez-moi à ma douleur et à ma honte. Mon ami, si vous saviez tout l'empire que la petite scélérate avait pris sur mon cœur, je suis né honnête. Jugez combien j'ai dû souffrir du rôle indigne auquel je me suis abaissé. Combien de fois j'ai détourné mes yeux de dessus elle pour les attacher sur vous, en gémissant de sa trahison et de la mienne. Il est inouï que vous ne vous en soyez jamais aperçu.
L'indigne. Chevalier. Vous, mon ami.
Oui, je l'étais. Et je le suis encore. Puisque je dispose pour vous tirer des liens de cette créature, d'un secret qui est plus le sien que le mien. Ce qui me désespère, c'est que vous n'en aurez rien obtenu qui vous dédommage de tout ce que vous avez fait pour elle.
Mais c'est la vérité dans le vin de coller l'auteur.
Auditeur, vous ne savez ce que vous dites. À force de vouloir montrer de l'esprit, vous n'êtes qu'une bête. C'est si peu la vérité dans le vin que tout au contraire, c'est la fausseté dans le vin. Je vous ai dit une grossièreté, j'en suis fâché, je vous demande pardon.
Ma colère tomba peu à peu. J'embrassai le chevalier, il se remit sur sa chaise, les coudes appuyés sur la table, les poings fermés sur les yeux, il n'osait me regarder.
Il était si affligé, et vous eûtes la bonté de le consoler.
Le parti qui me parut le meilleur, ce fut de tourner la chose en plaisanterie.
Il n'y a point d'homme comme vous. Vous êtes unique. Vous valez 100 fois mieux que moi. Je doute que j'eusse eu la générosité ou la force de vous pardonner une pareille injure et vous en plaisanter. Cela est sans exemple. Mon ami, que ferais-je jamais qui puisse réparer? Non, cela ne se répare pas. Jamais, je n'oublierai ni mon crime, ni votre indulgence. Ce sont deux traits profondément gravés là. Je me rappellerai l'un pour me détester, l'autre pour vous admirer, pour redoubler d'attachement pour vous.
Allons, chevalier, vous n'y pensez pas. Vous vous surfaites votre action et la mienne. Buvons à votre santé.
La mienne, non, mon ami, non. À la vôtre.
Le chevalier, peu à peu, reprit courage. Il me raconta tous les détails de sa trahison, s'accablant lui-même des épithètes les plus dures. Il mit en pièces et la fille, et la mère, et le père, et les tantes, et toute la famille.
Ramas de canailles, indigne de vous, mon ami, mais bien digne de moi.
Et voilà pourquoi je conseille aux femmes de ne jamais coucher avec des gens qui s'enivrent. Je ne méprise guère moins votre chevalier pour son indiscrétion en amour que pour sa perfidie en amitié. Mais que diable, il n'avait qu'à être un honnête homme et vous parler d'abord. Non mais tenez, monsieur, je persiste, c'est un gueux, c'est un fief et gueux. Je ne sais plus comment cela finira, j'ai peur qu'il ne vous trompe encore en vous détrompant. Tirez-moi, tirez-vous bien vite vous-même de cette auberge et de la compagnie de cet homme-là.
Ici, Jacques reprit sa gourde, oubliant qu'il n'y avait ni tisane ni vin. Son maître se mit à rire. Jacques toussa un demi-quart d'heure de suite. Son maître tira sa montre et sa tabatière et continua son histoire que j'interromprai, si cela vous convient. Ne fût-ce que pour faire enrager Jacques, en lui prouvant qu'il n'était pas écrit là-haut comme il le croyait, qu'il serait toujours interrompu et que son maître ne le serait jamais.
Après ce que vous m'en dites là, chevalier, j'espère que vous ne les reverrez plus.
Moi, les revoir ? Mais ce qui est désespérant, c'est de s'en aller sans se venger. On aura trahi, bafoué, dépouillé un galant homme. On aura abusé de la passion et de la faiblesse d'un autre galant homme, car j'ose encore me regarder comme tel, pour l'engager dans une suite d'horreurs. On aura exposé deux amis à se haïr, et peut-être à s'entregorger. Car enfin, mon cher, convenez que si vous eussiez découvert mon indigne mené, vous êtes brave, vous en eussiez peut-être conçu un tel ressentiment.
Non,
que...
cela n'aurait pas été jusque-là. Et pourquoi donc ? Et pour qui ? Pour une faute que personne ne saurait se répondre de ne pas commettre. Est-ce ma femme ? Et quand elle le serait ? Est-ce ma fille ? Non, c'est une petite gueuse. Et vous croyez que pour une petite gueuse... Allons, mon ami, laissons cela et buvons. Agathe est jeune, vive, blanche, grasse, potelée. Ce sont les chairs les plus fermes, n'est-ce pas? Et la peau la plus douce. La jouissance en doit être délicieuse. Et j'imagine que vous étiez assez heureux entre ses bras pour ne guère penser à vos amis.
Ça, il est certain que si les charmes de la personne et le plaisir pouvaient atténuer la faute, personne sous le ciel ne serait moins coupable que moi.
Ça, chevalier, je reviens sur mes pas. Je retire mon indulgence et je veux mettre une condition à l'oubli de votre trahison.
Parlez, mon ami, ordonnez, dites. Faut-il me jeter par la fenêtre, me pendre, me noyer, m'enfoncer ce couteau dans la poitrine?
Non, il ne s'agit pas de cela, chevalier. Laissez là ce mauvais couteau.
Ah, mais non, je ne le quitte pas. C'est ce que je mérite. Faites signe.
Non, non, laissez là ce mauvais couteau, vous dis-je. Je ne mets pas votre expiation à si haut prix. Non, buvons d'abord. Et vous saurez ensuite à quelle terrible condition j'attache votre pardon. Agathe est donc bien succulente, bien voluptueuse.
Mon ami, que ne le savez-vous comme moi?
Fais-moi l'histoire d'une de tes nuits. Traître charmant, ton absolution est à la fin de cette histoire. Allons. Allons, commence. Est-ce que tu ne m'entends pas?
Je vous entends.
Ma sentence te paraît-elle trop dure?
Non.
Non. Tu rêves?
Je rêve.
Non, et que t'ai-je demandé?
Le récit d'une de mes nuits avec Agathe.
C'est cela.
Ma foi...
Eh bien, qu'as-tu? Tu me dévisages.
C'est la même taille.
Qui donc?
À peu près le même âge.
Mais de qui parles-tu?
Quand il y aurait quelques différences, point de lumière. L'imagination prévenue que c'est moi, elle ne soupçonnera rien.
Non, non, mais chevalier, à quoi penses-tu donc? Tu ne commences pas.
Je pense, mon ami, j'y ai pensé, tout est dit. Embrassez-moi, nous serons vengés. Oui, ah oui, nous le serons. C'est une scélératesse de ma part. S'il est indigne de moi, elle ne l'est pas de la petite coquine. Vous me demandez l'histoire d'une de mes nuits.
Oui, est-ce trop exigé?
Non. Mais si, au lieu de l'histoire, je vous procurerai la nuit.
Cela vaudrait un peu mieux.
Voici deux clés. La petite est le passe-partout de la rue. La grande est celle de l'antichambre d'Agathe. Les voilà. Elles sont toutes deux à votre service. Voici ma marche de tous les jours depuis environ 6 mois. Vous y conformerez la vôtre. Ces fenêtres sont sur le devant, comme vous le savez. Je me promène dans la rue tant que je les vois éclairées. Un pot de basilic mis en dehors est le signal convenu. Alors, je m'approche de la porte d'entrée, je l'ouvre, j'entre, je la referme. Je monte le plus doucement que je peux, je tourne par le petit corridor qui est à droite. La première porte à gauche dans ce corridor est la sienne, comme vous le savez. J'ouvre cette porte avec cette grande clé. Je passe dans la petite garde-robe qui est à droite. Là, je trouve une petite bougie de nuit, à la lueur de laquelle je me déshabille à mon aise. Agathe laisse la porte de sa chambre entrouverte. Je passe et je vais la trouver dans son lit. Comprenez-vous cela?
Fort bien.
Comme nous sommes entourés, nous nous taisons.
Et puis je crois que vous avez mieux à faire que de jaser.
En cas d'accident, je puis sauter de son lit et me renfermer dans la garde-robe. Cela n'est pourtant jamais arrivé. Notre usage ordinaire est de nous séparer sur les 4 heures du matin. Lorsque le plaisir ou le repos nous mène plus loin, nous sortons du lit ensemble. Elle descend. Moi, je reste dans la garde-robe. Je m'habille. Je lis, je me repose. Enfin, j'attends qu'il soit l'heure de paraître. Je descends, je salue, j'embrasse, comme si je ne faisais que d'arriver.
Et cette nuit-ci, vous attend-on?
On m'attend toutes les nuits.
Et vous me céderiez votre place?
De tout mon cœur. Que vous préfériez la nuit au récit, je n'en suis pas en peine. Mais ce que je désirerais, c'est que...
Mais achevez.
C'est que vous restassiez entre ses bras jusqu'au jour. J'arriverai, je vous surprendrai.
Ah non, chevalier, non, ce serait trop méchant.
Trop méchant? Je ne le suis pas tant que vous pensez. Auparavant, je me déshabillerai dans la garde-robe.
Ah, allons, chevalier, vous avez le diable au corps. Et puis cela ne se peut. Si vous me donnez les clés, vous ne les aurez plus.
Oh, chevalier, que tu es bête. Et pourquoi n'entrerions-nous pas tous les deux ensemble? Vous iriez trouver Agathe? Moi, je resterai dans la garde-robe jusqu'à ce que vous fissiez un signal dont nous conviendrions.
Ma foi, cela est si plaisant, si fou, que peu s'en faut que je n'y consente. Non, mais chevalier, tout bien considéré, j'aimerais mieux réserver cette facétie pour quelqu'une des nuits suivantes.
Ah, j'entends. Votre projet est de nous venger plus d'une fois.
Si vous l'agréez.
Tout à fait.
Votre chevalier bouleverse toutes mes idées. J'imaginais...
Tu imaginais?
Non, monsieur, vous pouvez continuer.
Nous bûmes, nous dîmes sans folie, et sur la nuit qui s'approchait, et sur les suivantes, et sur celle où Agathe se trouverait entre le chevalier et moi. Cependant, nous sortîmes de table. Le chevalier paya. Et c'est la première fois que cela lui arrivait. Nous montâmes dans notre voiture. Nous étions ivres. Notre cocher et nos valets l'étaient encore plus que nous.
Auditeur, qui m'empêcherait de jeter ici le cocher, les chevaux, la voiture, les maîtres et les valets dans une fondrière? Si la fondrière vous fait peur, qui m'empêcherait de les amener sains et saufs dans la ville, où j'accrocherais leur voiture à une autre, dans laquelle je renfermerais d'autres jeunes gens ivres? Il y aurait des mots offensants de dit, une querelle, des épées tirées, une bagarre. Enfin, dans toutes les règles. Et qui m'empêcherait, si vous n'aimez pas les bagarres, de substituer à ces jeunes gens Mademoiselle Agathe, avec une de ses tantes? Mais il n'y eut rien de tout cela. Le chevalier et le maître de Jacques arrivèrent à Paris. Celui-ci prit les vêtements du chevalier. Voilà, il est minuit. Ils sont sous les fenêtres d'Agathe. La lumière s'éteint. Ils approchent de la porte. Le chevalier l'ouvre, introduit le maître de Jacques, garde le passe-partout de la rue, lui donne la clé du corridor, referme la porte d'entrée, s'éloigne, et, après ce petit détail, fait avec laconisme...
Le local m'était connu. Je monte sur la pointe des pieds, j'ouvre la porte du corridor, je la referme, j'entre dans la garde-robe. Je me déshabille, la porte de la chambre était entrouverte, je passe. Je vais à l'alcôve où Agathe ne dormait pas. J'ouvre les rideaux et à l'instant, je sens deux bras nus se jeter autour de moi et m'attirer. Je me laisse aller, je me couche, je suis accablé de caresses, je les rends. Me voilà le mortel le plus heureux qu'il y ait au monde. Je le suis encore, lorsque... Tu dors, Marouf, au moment le plus intéressant de mon histoire? Non, mais te réveilleras-tu?
Je ne le crois pas.
Et pourquoi?
C'est que je pense qu'il vaut mieux que nous reposions tous deux. N'êtes-vous pas entre les bras de mademoiselle Agathe?
Oui.
Ne vous y trouvez-vous pas bien?
Fort bien.
Restez-y.
Que j'y reste, cela te plaît à dire.
Et du moins jusqu'à ce que je sache l'histoire de l'emplâtre de Déglan.
Tu te venges, traître.
Et quand cela serait, mon maître? Après avoir coupé l'histoire de mes amours par mille questions, par autant de fantaisies, sans le moindre murmure de ma part, ne pourrais-je pas vous supplier d'interrompre la vôtre pour m'apprendre l'histoire de l'emplâtre de ce bon Déglan, à qui j'ai tant d'obligations, qui m'a tiré de chez le chirurgien au moment où, manquant d'argent, je ne savais plus que devenir, et chez qui j'ai fait connaissance avec Denise? Denise, sans laquelle je ne vous aurais pas dit un mot de tout ce voyage. Mon maître, mon cher maître, l'histoire de l'emplâtre de Déglan, s'il vous plaît.
Il y avait dans le voisinage de Déglan une veuve charmante qui avait plusieurs qualités communes avec une célèbre courtisane du siècle passé. Sage par raison, libertine par tempérament, se désolant le lendemain de la sottise de la veille, elle a passé toute sa vie en allant du plaisir au remords et du remords au plaisir, sans que l'habitude du plaisir ait étouffé le remords, sans que l'habitude du remords ait étouffé le goût du plaisir. Son curé la voyait rarement au pied des autels, mais en tout temps, il trouvait sa bourse ouverte pour les pauvres. Elle disait plaisamment de la religion et des lois que c'était une paire de béquilles, qu'il ne fallait pas ôter à ceux qui avaient des jambes faibles. Les femmes qui redoutaient son commerce pour leur mari le désiraient pour leurs enfants.
Ouf ! Fin du portrait.
Vous avez été fou de cette femme-là ?
Je le serais certainement devenu si Déglan ne m'eût gagné de vitesse. Déglan en devint amoureux.
Monsieur, est-ce que l'histoire de son emplâtre et celle de ses amours sont tellement liées l'une à l'autre qu'on ne saurait les séparer?
On peut les séparer. L'emplâtre est un incident. L'histoire est le récit de tout ce qui s'est passé pendant qu'ils s'aimaient.
Et s'est-il passé beaucoup de choses?
Beaucoup.
En ce cas, si vous donnez à chacune la même étendue qu'au portrait de l'héroïne, nous n'en sortirons pas d'ici la Pentecôte, et c'est fait de vos amours et des miens.
Mais aussi, Jacques, pourquoi m'avez-vous dérouté? N'as-tu pas vu chez Déglan un petit enfant?
Méchant, têtu, insolent et valétudinaire, oui, je l'ai vu.
Et c'est un fils naturel de Déglan et de la belle-veuve.
Et cet enfant-là lui donnera bien du chagrin. C'est un enfant unique, bonne raison pour n'être qu'un vaurien. Il sait qu'il sera riche, autre bonne raison pour n'être qu'un vaurien.
Et comme il est valétudinaire, on ne lui apprend rien. On ne le gêne, on ne le contredit sur rien. Troisième bonne raison pour n'être qu'un vaurien.
Une nuit, le petit fou se mit à pousser des cris inhumains. Voilà toute la maison en alarme. On accourt.
Mon papa! Où est mon papa? Je veux mon papa!
Et votre papa dort.
N'importe! Je veux qu'il se lève! Je le veux! Je le veux!
Il est malade.
N'importe! Il faut qu'il se lève! Je le veux! Je le veux!
On réveille Déglan. Il jette sa robe de chambre sur ses épaules. Il arrive.
Eh bien, mon petit, me voilà. Que veux-tu?
Je veux qu'on les fasse venir.
Qui donc?
Tous ceux qui sont dans le château.
Tu veux que...
Oui, je le veux. Je le veux. Tous, tous.
On les fait venir. Maître, valet, étranger, commensaux, Jeanne, Denise, tous, excepté une vieille concierge impotente, à laquelle on avait accordé une retraite dans une chaumière à près d'un quart de lieue du château.
Et la vieille concierge, où est-elle? Qu'on aille la chercher, je le veux!
Mais mon enfant, il est minuit!
Je le veux, je le veux!
Vous savez qu'elle demeure bien loin!
Je le veux, je le veux!
Qu'elle est âgée, qu'elle ne saurait marcher!
Je le veux, je le veux!
Il faut que la pauvre concierge vienne. On la porte, car pour venir, elle aurait plutôt mangé le chemin. Nous voilà tous rassemblés.
Maintenant qu'on me lève et qu'on m'habille.
Le voilà levé et habillé.
Passez tous dans le grand salon et placez-moi au milieu dans le grand fauteuil de mon papa.
Voilà qui est fait.
Maintenant, prenez-vous tous par la main et dansez en rond, dansez en rond, dansez en rond.
Et nous nous mettons tous à danser en rond, moi avec mon genou malade. Mais c'est le reste qui est incroyable. Mais
j'espère que tu me feras grâce du reste.
Non, 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 monsieur, vous entendrez le reste. Il croit qu'il m'aura fait impunément un portrait de la mère, long de 4 aunes.
Jacques, je vous gâte.
Oh, tant pis pour vous.
Vous avez sur le cœur le long et ennuyeux portrait de la veuve. Mais vous m'avez, je crois, bien rendu cet ennui par la longue et ennuyeuse histoire de la fantaisie de son enfant.
Si c'est votre avis, reprenez l'histoire du père. Mais plus de portraits, mon maître. Je hais les portraits à la mort.
Et pourquoi haïssez-vous les portraits?
On sait qu'ils ressemblent si peu que si par hasard on vient à rencontrer les originaux, on ne les reconnaît pas. Donc racontez-moi les faits, rendez-moi fidèlement les propos, et je saurai bientôt à quel homme j'ai affaire. Un mot, un geste, m'en ont quelquefois plus appris que le bavardage de toute une ville.
Un jour, Desglans...
Quand vous êtes absent, j'entre quelquefois dans votre bibliothèque, je prends un livre, et c'est ordinairement un livre d'histoire.
Un jour, Desglans...
Je lis avec... du pouce tous les portraits.
Un jour, Desglans...
Pardon, mon maître, la machine était montée, et il fallait qu'elle allât jusqu'à la fin. Et
y est-elle?
Elle y est.
Un jour, Desglans invita à dîner la belle veuve avec quelques gentilshommes d'alentour. Le règne de Desglans était sur son déclin, et parmi ses convives... Il y en avait un vers lequel son inconstance commençait à la pencher. Ils étaient à table, Desglans et son rival placés l'un à côté de l'autre, et en face de la belle veuve. Desglans employait tout ce qu'il avait d'esprit pour animer la conversation. Il adressait à la veuve les propos les plus galants. Mais elle, distraite, n'entendait rien, et tenait les yeux attachés sur son rival. Desglans avait un œuf frais à la main. Un mouvement convulsif occasionné par la jalousie, il le saisit. Il serre les poings et voilà l'œuf chassé de sa coque et répandu sur le visage de son voisin. Celui-ci fit un geste de la main, Desglans lui prend le poignet, l'arrête.
Monsieur, je le tiens pour reçu.
Oh.
La belle veuve se trouve mal et le repas fut triste et court. Au sortir de table, elle fit appeler Desglans et son rival dans un appartement séparé. Tout ce qu'une femme peut faire décemment pour les réconcilier, elle le fit. Elle supplia, elle pleura, elle s'évanouit, mais tout de bon. Elle serrait les mains à Desglans.
Et vous m'avez aimé.
Elle tournait ses yeux inondés de larmes sur l'autre.
Et vous m'aimez. Et tous les deux, vous voulez me perdre. Vous voulez me rendre la fable, l'objet de la haine et du mépris de toute la province. Quel que soit celui des deux qui ôte la vie à son ennemi, je ne le reverrai jamais. Il ne peut être ni mon ami, ni mon amant. Je lui voue une haine qui ne finira qu'avec ma vie. Cruel. Tirez vos épées et enfoncez-les dans mon sein. Si en expirant je vous vois embrasser, j'expirerai sans regret.
Eh bien, monsieur, qu'avais-je besoin du portrait que vous vouliez me faire de cette femme? Ne saurais-je pas à présent tout ce que vous en auriez dit?
Le lendemain, Desglans rendit visite à sa charmante infidèle. Il y trouva son rival. Et qui fut bien étonné, ce fut l'un et l'autre, de voir à Desglans la joue droite couverte d'un grand rond de taffetas noir.
Qu'est-ce que cela, mon ami?
Ce n'est rien.
Un peu de fluxion.
Cela passera.
Après un moment de conversation, Desglans sortit, et en sortant, il fit à son rival un signe qui fut très bien entendu. Celui-ci descendit. Ils se rencontrèrent derrière les jardins de la belle veuve, se battirent, et le rival de Desglans demeura étendu sur la place, grièvement mais non mortellement blessé. Tandis qu'on l'emporte chez lui, Desglans rentre chez la veuve.
Me direz-vous enfin ce que signifie cette énorme et ridicule mouche qui vous couvre la joue?
Il se lève, il se regarde au miroir.
En effet, je la trouve un peu trop grande. Avez-vous des ciseaux ?
Il détache son rond de taffetas, le rétrécit tout autour d'une ligne ou deux et le replace.
Comment me trouvez-vous à présent ?
D'une ligne ou deux moins ridicule qu'auparavant ?
C'est toujours quelque chose.
Le rival de Deglan guérit. Second duel où la victoire resta à Deglan. Ainsi, 5 à 6 fois de suite. Et Deglan, à chaque combat, rétrécissant son rond de taffetas d'une petite lisière et remettant le reste sur sa joue.
Mais quelle fut la fin de cette aventure ? Quand on me porta au château de Deglan, il me semble qu'il n'avait plus son rond noir.
Non, la fin de cette aventure fut celle de la belle veuve. Le long chagrin qu'elle en éprouva acheva de ruiner sa santé faible et chancelante.
Et Deglan ?
Un jour que nous nous promenions ensemble, il reçoit un billet, il l'ouvre et dit
« C'était un très brave homme, mais je ne saurais m'affliger de sa mort. »
Et à l'instant, il arrache de sa joue le reste de son rond noir, presque réduit par ses fréquentes rognures à la grandeur d'une mouche ordinaire. Voilà l'histoire de Deglan. Jacques est-il satisfait ? Et puis j'espérais qu'il écoutera l'histoire de mes amours ou qu'il reprendra l'histoire des siennes ?
Ni l'un ni l'autre.
Et la raison ?
C'est qu'il fait chaud, que je suis là, que cet endroit est charmant, que nous serons à l'ombre sous ces arbres et qu'en prenant le frais au bord de ce ruisseau, nous nous reposerons.
J'y consens. Jacques, connais-tu la fable de Garot ?
Oui.
Et comment la trouves-tu ?
Mauvaise.
C'est bientôt dit.
Et bientôt prouvé. Si au lieu de gland, le chêne avait porté des citrouilles, est-ce que cette bête de Garot se serait endormie sous un chêne ? Et s'il ne s'était pas endormi sous un chêne, qu'importait au salut de son nez qu'il en tombât des citrouilles ou des glands ? Faites lire cela à vos enfants.
Un philosophe de ton nom ne le veut pas.
Mais c'est que chacun a son avis et que Jean-Jacques n'est pas Jacques.
Et tant pis pour Jacques.
Qui sait cela ? Avant que d'être arrivé au dernier mot de la dernière ligne de la page qu'on remplit dans le grand rouleau.
À quoi penses-tu ?
Je pense que tandis que vous me parliez et que je vous répondais, vous me parliez sans le vouloir et que je vous répondais sans le vouloir.
Après ?
Après. Et que nous étions deux vraies machines vivantes et pensantes.
Non, mais à présent, que veux-tu ?
Ma foi, c'est encore tout de même. Il n'y a dans les deux machines qu'un ressort de plus en jeu.
Et ce ressort-là ?
Je veux que le diable m'emporte si je conçois qu'il puisse jouer sans cause. Mon capitaine disait « Poser une cause, un effet s'ensuit. D'une cause faible, un faible effet. D'une cause momentanée, un effet d'un moment. D'une cause intermittente, un effet intermittent. D'une cause contrariée, un effet ralenti. D'une cause cessante, un effet nul. »
Il me semble que je sens au-dedans de moi-même que je suis libre, comme je sens que je pense.
Mon capitaine disait, oui, à présent que vous ne voulez rien, mais veuillez vous précipiter sur votre cheval.
Eh bien, je m'y précipiterai.
Gaiement, sans répugnance, sans effort, comme lorsqu'il vous plaît d'en descendre à la porte d'une auberge.
Pas tout à fait, mais qu'importe, pourvu que je me précipite et que je prouve que je suis libre. Et
mon capitaine disait, quoi, vous ne voyez pas que sans ma contradiction, il ne vous serait jamais venu de vous rompre le cou ? C'est donc moi qui vous prends par le pied et qui vous jette hors de selle. Si votre chute prouve quelque chose, ce n'est donc pas que vous soyez libre, mais que vous êtes fou. Mon capitaine disait encore que la jouissance d'une liberté qui pourrait s'exercer sans motif serait le vrai caractère d'un maniaque.
Cela est trop fort pour moi. Mais en dépit de ton capitaine et de toi, je croirai que je veux quand je veux.
Mais si vous êtes et si vous avez toujours été le maître de vouloir, que ne voulez-vous à présent aimer une guenon ? Et que n'avez-vous cessé d'aimer Agathe toutes les fois que vous l'avez voulu ? Mon maître, on passe les 3/4 de sa vie à vouloir sans faire.
Il est vrai.
Et à faire sans vouloir.
Tu me démontreras celui-ci ?
Si vous y consentez.
J'y consens.
Et cela se fera demain.
Thank you.
C'était Jacques le fataliste et son maître, de Diderot. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Avec Jean-Pierre Cassel, Jacques. René Clermont, son maître. Jacques Castelot, le chevalier de Saint-Ouen. Georges Baudat, l'enfant. Robert Chandot, Déglan. Catherine Lecouet, la veuve. Jean Péméja, l'auditeur. Et Pierre Perroux, le rival. Avec Jacques Duménil, Diderot. Bruitage Robert Moufra. Chef opérateur du son Francis Granal. Collaboration technique Yann Parentoen. Assistant de production Pierre Cazaret. Réalisation Henri Soubéran.
Cet épisode, le 9e et avant-dernier, a été diffusé pour la première fois sur RTF Promotion le 21 novembre 1963. À suivre le 10e et dernier épisode. Et d'ici là, il est conseillé de réécouter en ligne ou de télécharger sur le site franceculture.fr, à la rubrique « Des nuits de France Culture », les épisodes précédents.